C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Comment définiriez-vous la différence et où les liens entre art et artisanat, les liens entre création contemporaine et culture populaire, culture sacrée et paysanne. Dans cette émission, on parlera de tout cela, on écoutera des tarentelles endiablées et bien sûr des contes merveilleux. Et puis, aux côtés de Luigi Rignanese, nous voyagerons dans l'Italie du Sud, là où tout a commencé. Imaginez, c'est une chaude soirée d'été sur la place du village, familles et voisins se retrouvent sous l'unique lampadaire et ils discutent et chantent jusqu'à ce que la fraîcheur de la nuit s'installe. Enfant du pays, Luigi Rignanese est un artiste engagé dans le renouveau du conte. En France, où il vit, il a contribué à la fondation de la compagnie DA, D'A. Écrit et interprété des dizaines de spectacles dans le monde entier. C'est grâce à l'amie Karine Mazel que nous le rencontrons lors de son passage à Marseille.
I still have a dream.
Alors vous pouvez entendre là un rythme ternaire. Parce que le ternaire sonne complètement différemment que le binaire et ouvre des espaces intérieurs différents. Le chant traditionnel est un chant qui est inspiré par les animaux. Je vais chanter comme un mouton pour vous ce soir. Et c'est très intelligent parce que je vais faire résonner les harmoniques aiguës de ma voix qui vont passer au-dessus du bazar du tambour. Et là, vous pourrez entendre un petit air de tarentelle qui fait, c'est plutôt une pizzica sur les modes tarentelle. Ça fait oh Santo Palomeo delle Tarante, oh Santo Palomeo delle Tarante, capite che le carute, a mia zananche. E ninna, 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 na. Bello l'amore, bello l'amore, bello l'amore, chi lo sa per fa. E ça c'est le rythme diablé de la transe, de la pizzica. Voilà, ça apporte de la joie.
Ouais. Luigi Rignanese, donc conteur et musicien.
Oui.
Musicien et conteur, historiquement. C'est les deux ensemble.
Les deux ensemble. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à raconter des histoires, on a fait beaucoup de contes théâtralisés dans les écoles avec une compagnie qui s'appelait Confetti, où je travaillais avec deux jeunes femmes. Et on avait un gros succès. On était vraiment les Beatles des cours de récréation. C'était super. Partout dans la banlieue parisienne. On faisait plus de 100 dates par an. Enfin, on travaillait fort, c'était bien. Et puis, une des conteuses est partie sur d'autres projets artistiques. Donc, j'ai remplacé Marie. Puis après, j'ai remplacé Albine, qui est partie sur un projet de chant rock avec les Castafiore Bazooka. Et puis, un jour, Albine et Marie, mes deux comparses, toutes les deux sont parties sur des aventures artistiques. Et je suis resté tout seul. Et moi, j'avais une trouille phénoménale de raconter tout seul. J'y arrivais, mais ça me demandait... Et je me suis dit, Je vais raconter avec un musicien d'instinct. Et j'ai travaillé avec un musicien de musique contemporaine qui s'appelle Sébastien Gaxi, qui est un grand compositeur d'aujourd'hui. À l'époque, c'était un jeune homme. On a beaucoup rigolé. Au début, j'avais un répertoire de contes très éclectique, comme beaucoup de conteuses et conteurs qui commencent. Donc, je racontais des contes du monde entier. Puis, je me suis intéressé fortement à la musique italienne, parce que dedans, j'avais un accès direct à la transmission orale, musicale, de danse, de chant et de pratique instrumentale. Donc ça, c'était mon chemin. Je fais beaucoup de balles et beaucoup de recherches dans le sud de l'Italie dans le même temps. Et à un moment, j'ai fait un spectacle avec mes copains musiciens autour des musiques populaires du sud de l'Italie, autour de la tarentelle, parce que c'est un truc qui me fascinait. Et au même moment, je vais voir Bruno de la Salle et je lui demande d'intégrer l'atelier Fahrenheit du Clio. Et lui, il me reçoit dans son bureau entouré des masses de livres. Et je suis là avec ma guitare, je lui racontais une histoire, je chantais une chanson. Et il m'a dit, je t'accepte que si tu racontes en musique et que tu t'accompagnes. Et moi, je lui ai dit, c'est impossible de jouer de la guitare et de parler, sauf si je récite. Il me dit, tu te débrouilles comme tu veux, c'est la condition. Je dis, j'accepte. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais incapable de rentrer en communication avec les musiciens pour exprimer clairement ce que je voulais leur dire pour servir l'histoire. Ça m'a désespéré, j'ai arrêté de raconter avec des musiciens. Je dis, je raconte tout seul en musique. Et tant que je n'ai pas compris comment ça marche artisanalement, je ne travaille plus avec musiciens. Pendant 10 ans, j'ai raconté sans musicien. À un moment donné, j'ai entendu Yannick Jolin dans une conférence à mes débuts, je ne sais plus où, qui est intervenu en disant « Le tambour le plus important qui existe sur cette terre, c'est la terre-mère, donc plantez vos histoires dans vos jardins, ça résonnera mieux. » Je fais « Oh, intéressant. » Et une autre intervention de Muriel Bloch qui disait dans une autre conférence « Attention avec les racines, il ne faut pas se prendre les pieds dedans. » J'ai dit « Yes, voilà deux axes qui m'intéressent à explorer. » Donc, plus la musique, c'était le début d'une recherche artisanale pour servir les histoires au mieux. Voilà.
À l'un, les degrés sont escaladés. À gauche, une porte. À droite, une porte. Don Peppino invite l'évêque à ouvrir la porte de droite, mais celui-ci, n'en faisant qu'à sa tête, ouvre la porte de gauche. Et là, il arrive dans une chambre. Wow. Il y a un lit à baldaquin, avec des draps de soie rouge. Au-dessus du lit, un grand miroir, sur tous les murs des miroirs. Une peau d'ours venant directement du roi de Cavaliche et posée par terre. Comme une seule image chien, assis à un petit prie-dieu avec des dessous féminins en soie rouge et noir. Et dedans, un odore di femmina, terribile. Non capisco. Ce n'est pas ma chambre, c'est la chambre de la bonne Maria. Et il l'emmène en face, et là, il y a un lit fait de 4 planches de bois, un oreiller de paille hérissé, des couvertures pliées, un prie-dieu avec un peu de poussière. La Santa Maria est di fronte, sur le mur d'en face, son fils Jésus qui s'ennuie un peu. Ciao, maman. L'évêque redescend. Et là, le repas est glacial. Ils font les prières d'usage et ils entendent un petit tip-tap, petit-tap. C'est la pasta qui arrive quand la porte Maria. Et elle pose la pasta, lève les yeux. Et là, il voit le petit crucifix en or, le plus heureux du monde. Un petit crucifix serré entre deux monts blancs, ceints de dentelles noires. À coups délicats, une mouche cerise, des dents de perles, des yeux noirs. Comme la notte d'Italia, des cheveux qui tombent en cascade. Elle dit bonjour. Une haleine de parmesan et de basilic frais. Oh. Elle s'en va, et lui, il chouille. Le balancement de la petite robe trop serrée. Son Peppino dit, mais non, ça c'est ma vie. Il va à la cuisine, il congédie la bonne, revient et il explique, c'est Maria. Elle servait à l'auberge et depuis ce temps-là, les hommes allaient tous à l'auberge et ils n'étaient plus à la maison. Et quand ils rentraient à la maison, ils restaient à l'auberge tellement longtemps qu'ils rentraient tous les bourses vides. Enfin, ils avaient dépensé tout leur argent, quoi. L'ambiance a été fraîchissima tout le repas, malgré le vino rosso servi à grande lampe. Au café, l'évêque était toujours aussi pâle. Alors, Don Peppino est allé chercher la Santa Zappa. Rien à faire.
Ils vont au grenier chercher le Santo Armagnaco. Rien à faire. Alors il a sorti son atout parce qu'il a ouvert le placard. Et là, il y avait sur un coussin vert le pied bleu de Saint Fortunato la Fantasia, les ongles longs et une paire de ciseaux en or, dans une chasse de cristal. Et il l'a porté à évêque et il a ouvert. Et là, du pied est sorti un profumo di Santo Pied. Le parfum du Saint-Pied. Et ce parfum est fait comme le soleil, dilate les cœurs. Alors, tout l'alcool ingurgité est monté et l'évêque s'est un peu détendu. Et clic, et clac, et clic, et clac. Et ils ont coupé de concert les ongles sacrés qui continuaient de pousser. Ils ont fini par danser la tarentelle, la main dans la main. Et bien mezzanotte, l'évêque est rentré chez lui. Ciao.
Un regard toujours tourné vers son Italie du Sud, Luigi Rignanese, invité du Festival du Conte de Québec, nous entraîne avec son tambour dans la lignée des troubadours. C'est pas pour dire, Luigi Rignanese en compagnie de la conteuse Karine Mazel.
J'utilise beaucoup ce mot d'artisanat, souvent oui. En lieu et place d'art.
Oui.
Comment tu articules les deux ensemble ?
Eh bien, d'une manière assez simple, si on prend la définition la plus simple que j'ai trouvé dans le dictionnaire sur l'art, de mémoire, c'est ensemble de connaissances autour d'un savoir, on va dire, d'une pratique. Ça, c'est l'ensemble théorique. Mmh. Et un autre truc, c'est la mise en pratique de ça. Et dans la mise en pratique, il y a un artisanat. L'artisanat, ça m'intéresse parce qu'il y a un savoir-faire. Moi, je viens d'un milieu artisan populaire, donc je comprends très bien ce que ça veut dire un savoir-faire. Quand mon père était maçon, il y a un savoir-faire pour faire maçon. Il y a un savoir-faire pour faire boulanger. On ne s'improvise pas boulanger, c'est un savoir-faire. Il y a un savoir-faire pour n'importe quelle pratique artisanale. Mmh. Et dans le conte, dans les traditions populaires en tous les cas, comme je les ai étudiées moi avec mon absence de bagage théorique, je me suis rendu compte qu'il y a un savoir-faire dans les pratiques artistiques populaires. Mais le mot artistique est mis un peu de côté parce que ce n'est pas tout à fait le même but. Dans les communautés avec qui j'ai côtoyé, tout le monde sait chanter, tout le monde sait danser, tout le monde. Ils ont tous l'artisanat de la pratique artistique communautaire, c'est-à-dire la danse, le chant, la musique. L'artisanat, c'est un savoir-faire, voilà. Et l'artistique, pour moi, ça m'appartient qu'à moitié. C'est-à-dire, quand il y a un acte artistique, c'est pas moi qui le décide, c'est le public qui reçoit, et à la fin, il vient de me dire « merci ». Il y avait de la poésie, j'ai été embarqué, etc., etc. Moi, je n'ai pas d'ambition artistique. Enfin, si j'en ai une, mais elle m'échappe, c'est clair. Mm-hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas de maîtrise de dire « je vais faire une œuvre d'art ». Non, je fais une œuvre d'artisan. Déjà, c'est pas mal. La dimension artistique m'échappe. Voilà, ça ne m'appartient pas. Ça m'appartient dans le sens où je travaille, mais c'est la réception du public avec le lieu, l'instant, le moment qui fait qu'il y a une catharsie, une sublimation, on va trouver des tas de mots, un truc. Une œuvre, voilà, éphémère qui se crée à ce moment-là.
Io non so il perché,
Et alors, concernant l'artisanat du conteur, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est quoi les savoir-faire sur lesquels le conteur s'appuie?
Je vais quand même faire une précision qui est indispensable. Je partage une expérience personnelle et j'ai bien dit que j'étais armoire ou pas très efficient sur les pratiques théoriques. Donc, je ne pose pas une théorie. C'est-à-dire que moi, je peux constater de manière empirique, depuis quand même maintenant 30 ans que je fais ce métier et 20 ans que je le fais en solo, ou avec des musiciens, mais on dit que je suis un peu le capitaine du bateau, en tous les cas. Mon obsession, c'est de chercher l'artisanat pour que la magie arrive, l'artistique arrive. Voilà. C'est mon truc, mon dada depuis des années et des années, je réfléchis là-dessus. Et dans tous les critères, un des premiers que je trouve dans notre discipline, moi ça fait quand même 30 ans que je m'y intéresse, et quand je me suis intéressé au conte, j'ai fait des recherches historiques sur ce qui s'était passé avant moi, pour que la discipline en soit à ce point-là, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment fort dans les années 95, à la discipline, en tous les cas, je ne savais pas que ça existait les conteurs, les conteuses, je ne savais pas que c'était... qu'il y avait une romantisation artistique là-dedans. Moi, je faisais des contes, mais voilà, c'était un peu un pis-aller parce que personne ne voulait de moi au théâtre et que j'aimais pas le théâtre non plus et que j'avais envie de parler, que c'était vraiment pratique. J'avais un public, on avait un système artisanal d'aller jouer dans les écoles, c'était formidable. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est une discipline artistique, il y a des artistes, il y a des gens qui sont reconnus comme des maîtres, il faut que je les rencontre, il faut que j'aille les écouter, etc. Et je me suis intéressé très fortement au milieu du conte. Et ça fait quand même plus de 40 ans qu'il y a un renouveau du conte en France, et pas qu'en France, dans toute la francophonie, dans le monde entier. Et quand on parle de conte, tout le monde dit « ouais, on comprend à peu près ce que c'est », mais quand on dit l'art du conteur, alors là, on rentre dans des définitions qui sont, pour moi, ésotériques, que je peux entendre de manière poétique, mais ça ne m'aide pas tellement au niveau pratique.
Alors du coup, pour en revenir à ce que tu avais commencé à dire que tu avais fait des recherches historiques pour voir comment les anciens s'y prenaient avant nous.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans?
Tout d'abord, on peut dire que sur les recherches qu'il y a sur le conte, on s'intéresse beaucoup plus au conte comme objet littéraire qu'au conteur. Dans les traditions, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire comment ça fonctionne. Donc, je suis allé dans des communautés, des villages italiens, mais chaque petit village a une identité propre. Parce que quand j'étais petit, par exemple, dans un village, on parlait un certain type de dialecte, et 50 km plus loin, 20 km plus loin, on parlait un autre dialecte. Donc il y a vraiment une communauté de langue, de culture, qui est liée à l'endroit où tu habites. Et dans cette communauté, les gens, avant, ne voyageaient pas trop. Et ils portent une tradition orale plurimillénaire, avec une inconscience et une légèreté fabuleuse. Quand tu cherches, tu vas trouver des explications théoriques. Mais les gens du terroir, eux, ça, ils s'en tapent. Et en Italie du Sud, ce qui est très intéressant, c'est que le vernis catholique est très fin, contrairement aux apparences. Donc tu grattes et tu arrives vite à des croyances magiques et chamaniques qui sont vivantes. C'est les gens, ils vivent ça dans leur corps.
Il y a longtemps, quand c'était encore le bon temps, dans un pays d'ailleurs, par une nuit sans lune, un royaume, un château, un village, une cabane misère. Dans la cabane misère, une famille se repose. Sur sa paillasse, la mama ronfle profondément. Dans son sommeil, elle a la lèvre qui saigne, le doigt tout gonflé, le pied tout gonflé. Elle dort profondément, terrassée par la fatigue de la corvée. Comme les 250 femmes du village, aujourd'hui elles ont fait corvée de filage. Tordre le fil, mouiller le fil, appuyer sur la pédale du rouet, sans s'arrêter.
Elles ont travaillé gratuitement pour le roi, parce que elles appartiennent au roi. Ce sont des serves, des esclaves. Elles appartiennent au roi tout comme la laine, les moutons, les bergers, les champs, les prés, les forêts, les montagnes, les rivières, le ciel. Tout appartient au roi. Et dans le ciel, le cousin du roi, Dieu. Mais pourquoi tu nous as fait naître pour cette vie de misère? Mais tu vas répondre, toi, là-haut! Ces questions sans réponse empêchent le père de dormir. Dieu me meut. Il tourne, se retourne sur son lit et surtout, il regarde leur petite fille qui dort de l'autre côté de la pièce. Elle s'appelle Saporita, la savoureuse. Elle a 6 ans. Dans son sommeil, elle a la lèvre qui saigne. Le doigt tout gonflé, le pied tout gonflé. Elle suit le fil de la destinée familiale. Le père, cette nuit-là, il a dit « Basta così, ça suffit ». Il s'est levé. À tâtons, il a pris sa veste, son bâton. Et il s'est dirigé vers la porte. Quand il a posé la main sur celle-ci, entre les ronflements, une voix d'enfant. « Papa, papa, mais où tu vas à cette heure-là ? » Chut ! Il lui a demandé pas de faire de bruit. Il ne faut pas réveiller la maman. Chut ! Il lui a expliqué qu'il en avait assez de cette vie de misère. Qu'il partait chercher fortune ailleurs. Qu'il ne reviendra pas plus tard que tout à l'heure. Il lui a demandé de chanter pour le faire revenir. Et puis le père a pris sa fille dans ses bras. Des larmes, et sans se retourner, il a disparu dans la nuit noire, et sur son lit, l'enfant pleure doucement.
Fatigue, fatigue, ou quand le jazz et le conte merveilleux tissent l'histoire. Il était une fois un maître conteur et son royaume musical. À travers cette histoire, Luigi Rignanese, entouré par le Quator à conte, pose la question du travail, tour à tour aliénant et libérateur.
Très vite, en fait, tu es venu à parler plutôt des chansons que les histoires elles-mêmes. Est-ce qu'elles étaient aussi reliées à des événements, des mœurs, des fêtes rituelles?
Pour les contes, il y a une collection qui a été sortie par Mondadori, qui est tous les contes des régions italiennes, qui est très intéressante, où Calvino a puisé, et voilà, il y a un gros fonds à Rome de collectage de conteurs dans les années 50-60, c'est un peu la fin. Et dans chaque petit livre sur les régions, il y a un sociologue, un ethnologue, enfin quelqu'un qui a une compétence particulière autour de la transmission, qui témoigne de son collectage ou qui témoigne de... L'extinction des conteurs, elle était plus rapide parce que les gens, certains témoignent, disent on n'aimait pas que les étrangers assistent aux soirées contes. Parce que dans les soirées contes, la conteuse ou le conteur, qui racontait des contes merveilleux et plein d'autres affaires, il s'amusait toujours à mettre un sens politique, c'est-à-dire la vie de la communauté, en jeu, où il y avait le patron méchant qui assistait à la veillée. Eh bien, s'il avait des grosses moustaches, il se trouve que le méchant de l'histoire avait des grosses moustaches et il avait le cul qui pèle. Et tout le monde savait qu'on parlait de cette personne. Mais lui, il ne pouvait pas se lever. Il dit, t'arrêtes de parler de moi comme ça, parce que sinon, il accepte. Enfin, tout le monde se serait moqué de lui. Donc, on pouvait se moquer de régler des conflits intercommunautaires, parce qu'ils vivaient tous les jours ensemble, même si... Et c'est pas facile, hein, quand on a des voisins, vous voyez bien. Pour ceux qui ont des voisins et des voisines. Et ça permettait de régler des affaires. Comme dans la danse, j'ai retrouvé la même chose. C'est-à-dire que si on prend toutes les danses de cercle en France, en Europe, eh bien, dans ces danses de cercle où on change de partenaire en permanence, et on trouve ça très sympathique aujourd'hui, quand tu es dans la même communauté, que tu es fâché avec ton voisin depuis 3 générations, et que tu vas danser avec la femme de ton voisin, c'est compliqué. Mais si tu refuses, ça, c'est là où ça devient intéressant, que je trouve ça intelligent. C'est-à-dire, si tu refuses de danser avec la voisine qui est ton ennemi, tu mets en sécurité, tu mets en cause la sécurité alimentaire du village parce que ces danses-là étaient effectuées à un certain moment de manière sacrée. Il y avait un rituel. Et dans ce rituel-là, il fallait danser avec tout le monde. Si tu ne dansais pas, tu mettais en cause la communauté. Et donc, tu étais obligé de danser avec les autres. Donc, dans le conte pareil, il mettait en scène la vie de la communauté pour en rire et que ce soit supportable, sinon on s'assassinait. Et donc, les conteurs ont disparu plus vite que les chansons. Ou alors, les gens ne m'ont pas invité à déveiller en se disant « lui, c'est un étranger ». Parce que quand même si j'ai eu la chance, longtemps j'ai cru ma chance d'apprendre en premier à parler un dialecte du sud de l'Italie, et bien plus tard, quand, à 30, 25, 27, 28 ans, 30 ans, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que c'était un vrai... Parce qu'en parlant le dialecte, et bien je pouvais rentrer en contact avec d'autres dialectes, même si on ne se comprenait pas bien, on était du même milieu. Et donc il y a plein de portes qui sont ouvertes. Mais là, voilà, les contes, non, j'ai eu quelques histoires du prince serpent qui me sont arrivées, mais c'était des souvenirs de contes comme les collecteurs ont fait à travers les siècles, où tu t'aperçois qu'il y a plein de collecteurs qui disent « je suis allé voir tel conteur ou telle conteuse, on m'avait dit que c'était le ou la meilleure de toute la contrée, mais c'est n'importe quoi, elle n'arrête pas d'improviser ». Elle rigole alors que c'est super, ça devrait être sérieux. D'un seul coup, elle met des chansons qui n'ont pas rapport et tout le monde chante. J'ai rien compris. Heureusement, j'ai trouvé un collecteur, une collecteuse fiable qui, elle, m'a raconté les histoires comme elle s'en souvient. Et c'est ça la bonne version. Eh ben non. Parce que je pense que réellement, au même titre que les chanteurs et chanteuses que j'ai vus en action, qui étaient vraiment vieux, eh bien, quand ils chantent, oui, ils vont utiliser des motifs de vers en alexandrin ou en décasyllabes, en 11 pieds, en 10 pieds, en décasyllabes, etc. Enfin, des trucs vraiment compliqués avec des rimes riches et tout. Et ils ont un paquet de motifs sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et après, tu te rends compte qu'ils prennent ces motifs, qu'ils les détournent tout en respectant la métrique, tout en chantant, et que là, ils improvisent totalement. Et tu te dis, moi, je me suis toujours dit, l'art du conte, c'est un art de l'improvisation. Voilà, c'était mon chemin pour refuser d'apprendre par cœur mes histoires. Ça me rassurait, mais ça m'enlevait la possibilité d'improviser en public, chose que je fais toujours, et réciter, c'est pas la même chose que conter. Et aujourd'hui, quand tu vois les programmations de festivals de contes, tu t'aperçois que la confusion est toujours là, parce que quand un artiste est invité et qu'il a un artisanat, pour moi, je parle pas d'un art, hein, d'un artisanat de réciter son histoire ou son truc, son récit, son délire, eh bien, c'est pas précisé. Et ça, c'est dommage pour moi. Parce que c'est comme si, au restaurant, on ne nous dit pas ce qu'on va manger. Laudato sia lo santo sacramento.
C'est pas pour dire, la conteuse Karine Mazel rencontre le conteur Luigi Rignanese et ça se passe à Marseille. San Pasquale fai l'onne protettore delle donne, manna bello lo mareto, e ancora se coloreto, a piacere tale quale, no Mattia San Pasquale, a piacere tale quale, no Mattia San Pasquale.
Comment tu t'y prends pour que cette... acte artistique ait lieu dans la relation avec le public. Comment tu travailles ?
Eh bien, je travaille, alors comme beaucoup de conteuses et conteurs, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Donc, je suis un des artistes conteurs qui, depuis 20 ans, va voir le maximum de collègues. Et j'invite tous ceux qui se lancent dans ce métier, ou même ceux et celles qui sont dans ce métier depuis longtemps, de ne pas oublier de le faire régulièrement. D'abord, ça fait du monde aux copains, et ça nourrit énormément. Parce que, et c'est bien d'amener les amis, comme ça, ça fait du monde, quand on va voir un collègue, moi, chaque fois que je vais voir une conteuse ou un conteur professionnel et même amateur, eh ben, je suis très content d'aller voir son artisanat, de voir comment il procède. S'il est assis, s'il est debout, s'il a un costume, s'il n'a pas de costume, comment il recrée un sentiment de cercle alors qu'on est en frontalité la plupart du temps dans nos spectacles, comment il se sert de sa voix, comment il se sert de ses gestes, s'il est pieds nus, s'il a des chaussures, etc., etc. C'est infini. L'artisanat qui est lié à la performance m'intéresse. Ça m'intéresse énormément. Et moi, comment je m'y prends? Comme beaucoup de conteuses et de conteurs, quand je cherche, moi, je procède comme ça. Ça m'arrive, comme certains, de rencontrer une histoire et dire oh, « c'est elle qui m'a choisi ». Mais c'est très rare. Généralement, je rigole, c'est un des mythes de notre métier qui me fait rire et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour ça. Donc, l'histoire m'a choisi. Bon, bah, parfois, ça arrive, mais c'est rare. La plupart du temps, je me suis posé la question quand j'ai vu les conteurs de tradition, je me suis dit « voilà, pour moi, ça va être mon maître guide. » Parce que je n'ai pas de modèle. En voyant ces conteurs de tradition populaire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chanteuses et chanteurs professionnels. Il n'y avait pas de musiciens, musiciennes professionnelles, ni de danseuses, ni de danseurs professionnels. Par contre, quand il y a la fête votive du village, la communauté danse, chante, tout le monde danse, tout le monde fait de la musique, c'est formidable. Mais quand arrive un ou une maîtresse d'une des pratiques, tout le monde se tait et laisse la place. C'est-à-dire que la personne, on ne lui a pas dit... c'est pas lui qui s'est élevé un jour et qui dit hey, « c'est moi la conteuse ou le conteur ou le danseur ou le danseur ». Ça se fait tout seul, c'est-à-dire que dans la communauté, il y a un moment, et j'ai vu en Italie par exemple des grosses fêtes, tout le monde danse, et puis un petit papy avec une petite mamie qui arrive, ils savent à peine marcher, ils ont une canne, et là tu vois, tu dis « tiens, eux ils sont accueillis d'une manière différente, c'est pas ostentatoire, mais tu sens qu'il y a une attention, une bienveillance, on les assoit, à un moment donné ils se lèvent, tout le monde dégage de la piste, on leur laisse la piste, ils dansent, et quand ils dansent, tu fais « ah, c'est ça, danser. » Parce que c'est magique. Ils font les mêmes pas que les autres. Hein. Parfois, ils ont des petites... Mais c'est des variations subtiles. Et dans le chant, c'est pareil. Mais il y a une évidence. Il y a une grâce infinie qui te prend, qui te remonte les poils. Et tu fais, ah, mais comment il fait? Et le papy, la fille, ou la mamie, la fille de danser, elle boite avec sa canne, elle va s'asseoir. Et j'ai vu des gens chanter pareil. Ils arrivent, tout le monde se tait, tout le monde chantait, braillait. Ah, tout le monde chante bien pour moi. Mais quand la chanteuse ou le chanteur prend la voix, tu fais « waouh ». Donc, il y a une histoire de communauté, tu vois, de vivre ensemble. Et qu'il y a une sacralité là-dedans, une verticalité entre la terre et le ciel. Et une circulation d'énergie dans les sens-là et une circulation d'énergie horizontale dans le cercle. Et ça, je me suis dit « ah oui, dans le conte, ça devait être pareil, il n'y a pas de raison ». Et donc, qui désigne le conteur ou la conteuse? Je me suis dit, moi, on m'invite, donc je suis quelque part désigné. Par contre, je me pose la question, voilà, quelle est ma communauté? C'est quoi? Donc, dans cette communauté, il y a un sens politique qui est de vivre ensemble, tout simplement. Quelle est ma communauté? C'est une communauté de village, régionale, nationale, internationale. Et je ne mets aucune échelle de valeur là-dedans. C'est juste d'autres modes de faire.
Et à la fin de la journée de travail, chacun ramasse ses outils et rentre chez lui. Dans la cabane misère, il y en a une qui attend le retour de sa fille. C'est la maman. 150 kilos de muscles sans un poil de graisse. Elle a les cheveux blancs tirés en chignon, des sourcils de porc épic, un nez patate, des petits yeux de cochon où brille une lumière, des moustaches de carpe ourlent ses lèvres de chameau. Elle a perdu toutes ses dents sauf de canine vampire. Elle a des bras de gorille, une poitrine éléphantesque, des fesses d'hippopotame, madame, et des cuisses de baleine. Depuis que son mari est parti, la maman, elle est devenue forte pour deux, pour trois. Parce que si son fainéant de mari ne voulait boire que du vin, sa feignasse de fille, elle vaut pas mieux. Elle veut que chanter, alors la maman l'attend le balai à la main. Et quand sa fille revient, elle lui dit: ma chérie, pas plaisir à la maman, prends le balai et balaye un petit peu. Et la jeune fille de répondre: oh maman, moi si tu veux, je te chante la tarentelle de la belle pour t'encourager. Qu'est-ce que t'en penses? Tout va pas balayer, ma c'est pas grave. Tout prends l'éponge et tout fais la vaisselle. Oh maman, moi si tu veux, je peux te chanter la valse de l'éponge pour t'encourager. Tout va pas faire la vaisselle, c'est pas grave, je m'énerve pas. Ma, tu vas faire ton lit et t'arrêtes de discuter. Oh maman, faire le lit, beurk, beurk, beurk. Si tu veux, je peux te chanter la polka de l'oreiller pour t'aider. Tu vas pas faire le lit, tu vas pas faire la vaisselle, tu vas pas balayer, et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu veux chanter, mais chanter c'est pas mon métier. Moi je vais te mettre le sens de réalité, les tempos du boulot dans la peau à coups de balai. Viens voir. Et la maman se met à courir après sa fille autour de la table de la cuisine. Et la jeune fille se met à hurler: au secours, un monstre!
Encore un extrait du conte musical Fatigue Fatigue, interprété par Luigi Rignanese et le Quatuor à Conte. Une forme contemporaine du conte merveilleux où la musique aux accents jazz s'impose comme une véritable narratrice. Mais Luigi va nous en dire plus au micro de Karine Mazer.
Donc, dans ce spectacle, Fatigue, Fatigue, ce sont des contes traditionnels que tu as...
Réadaptés,
ouais. D'accord, au monde contemporain?
Non.
Non,
non. Non, parce que je trouve ça très pratique. Il était une fois, il y a longtemps, eh ben, ça permet un espace et une distance qui invite un plus grand nombre de personnes à entendre l'histoire sans se fermer. Et ça permet aussi de jouer... Parce que quand on rentre dans la construction, moi je suis un peu fan des contes merveilleux, je me considère encore comme un apprenti là-dedans après 30 ans de recherche, on s'intéresse aux contes merveilleux, eh bien on voit qu'il y a des chaînes symboliques, des chaînes émotionnelles, qu'il y a des motifs qui reviennent dans un certain ordre et pas dans l'autre, etc. etc. et qu'il y a des gens qui ont écrit 1 million de livres là-dessus pour expliquer le pourquoi des comment. Psychanalytique, psychologique, sociologique, ethnologique, et l'intérêt de ces histoires sur le travail intérieur. Donc là-dessus, moi, je me dis, waouh, je touche des objets qui, voilà, au niveau résonance, m'échappent, et tant mieux, parce que si je voulais contrôler, ce serait plus du conte merveilleux, ce serait autre chose. Comment je laisse vibrer tout ça sans enfermer la résonance à ce que moi, je peux comprendre? Et sur chaque spectacle, j'ai des fonds, des bases, des fondations, voilà, parce que moi, je suis un fils de maçon, et qu'une maison, elle tient debout, si elle a des fondations. Donc, il y a une fondation qui est une problématique intime qui me travaille et je cherche toujours, toujours, toujours du répertoire traditionnel pour parler de cette thématique-là. Si je ne trouve pas, eh bien, j'écris des histoires en choisissant une forme de récit. Ben voilà, la fable, le conte merveilleux, l'épopée, etc. Et je me dis... comment ça fonctionne à peu près artisanalement ce genre de récit, et j'essaye de m'y coller au plus près.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire des fondations de ton engagement pour être conteur?
Bruno de la Salle, dans les ateliers, souvent nous disait, avec son ton d'ours, mal léché, ou d'ogre, ça dépendait des jours, qu'est-ce qui te permet de demander à tout le monde de se taire et de parler là, de la place où tu es. Et moi, je disais, merde, qu'est-ce qui me permet? Je dis, moi,
Bruno, on t'aime.
Merci, oui, exactement, c'est de l'amour, oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour sûr. Rude, traditionnel, mais oui, c'était de l'amour. Il n'y a pas de problème. Et mais c'est des questions qui m'ont hanté et qui me hantent encore. De quel droit je monte sur scène et je demande à tout le monde de se taire? Taisez-vous, c'est moi qui parle. Alors même s'il y a un cadre aujourd'hui qui est très pratique, qui est le spectacle, où il y a une entrée, une billetterie, les gens arrivent, bon, il y a un code social qui fait qu'ils payent pour entendre, enfin, tout ça, c'est, on peut en discuter, mais voilà. Mais ce n'est pas une autorisation. Qu'est-ce qui m'autorise à ça? Moi, je suis assez attaché à l'éthique. Quand je suis conteur professionnel, je me dis, qu'est-ce qui m'autorise à me dire que je suis conteur professionnel, même s'il y a des gens qui m'invitent pour ça, donc ça me donne une certaine... Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à l'éthique. J'ai cherché, toujours en partant de la tradition, quand tu es dans une communauté, les gens se surveillent tout le temps. C'est insupportable. Et c'est bien aussi. C'est toujours pareil, il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Vous êtes toujours à l'écoute de ces pas pour dire.
Ce que j'en ai compris, c'est que ton éthique, elle va au-delà d'une éthique professionnelle qui est ce qu'on appellerait du coup la déontologie. C'est aussi une éthique de vie. Oui. C'est-à-dire être compteur pour toi, de ce que j'en ai compris, mais tu vas me le préciser.
C'est ça.
C'est d'abord un travail sur soi en tant qu'être humain et sa manière d'être au monde.
Exactement. D'être au monde en rapport avec les autres.
C'est ça.
C'est-à-dire ne pas nuire à mon prochain et ni à ma prochaine. Au moins, essayer d'être à la hauteur des récits que je raconte. C'est pas simple, l'éthique. Après, longtemps, j'ai erré dans cette recherche parce que je ne trouvais pas un moyen de m'en sortir sans une injonction morale. J'ai découvert le travail de Simone Veil, qui a été engagée par le général de Gaulle, alors qu'elle l'avait rejoint à Londres, d'écrire une nouvelle constitution française. Dans le sens, une nouvelle constitution de vivre ensemble. Dans son bouquin, elle dit, pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait société vivre ensemble, quand on occupe une fonction, on a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. Et bien, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah, merci, voilà la formulation la plus simple que je cherchais. C'est-à-dire, quand j'occupe une fonction, parce que c'est une fonction, hein, on dit « je suis conteur » ou « je suis conteuse », c'est une blague. « Je suis médecin, je suis garagiste ». Non, 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 non. « Je fais le garagiste, je fais le conteur, je fais… » C'est une fonction. On occupe une fonction. Donc, quand on occupe une fonction, on a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. Et dans les devoirs que je me suis imposé tout seul par rapport à la parole, eh bien, je fais attention à ne pas mentir pour nuire. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et quand je donne ma parole, je m'y tiens. Et si je ne le fais pas, par rapport à l'outil qu'est la parole, puisque la parole, c'est un outil, le langage, quand je parle dans ma vie tous les jours, et quand je parle pour porter une histoire, c'est quand même des niveaux de langage différents. Si je ne suis pas capable, moi, de jouer avec ces niveaux de langage différents, quelque part, je ne remplis pas mes devoirs. Qui est de m'intéresser à cette chose-là. Donc voilà, on ne peut pas savoir mes ombres intimes de ma maison quand je vais rayonner dans la francophonie. Mais moi, par éthique, par rapport aux histoires que je porte, que je les écris ou pas, ce n'est pas très important, mais on va dire, au moins par rapport à la tradition, je me dois être à la hauteur.
Les trois frères titubent légèrement. Ils n'ont pas l'habitude d'avaler de telles quantités d'uvo fraises comme ischiato con vino rosso à l'apéritif. Mais que voulez-vous, quand on est immigré, il faut bien s'intégrer. Ils titubent au milieu des étals, dans toutes les langues de la Méditerranée, les marchands interpellent les gens qui passent. Venite, venite, tenino tutte le qualità de pêche. Pêche fraîche, pescata la stamattina, ouais, la carte nouvelle pêche. Aramana, aramana, de madame achète pour le prix d'une pas chère. Bonne qualité, bonne qualité. Calimera, calimera. Et les cris s'envolent dans le ciel bleu où les goélands, les gabbiani répondent à tue-tête. Ah, 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 ah. Malgré leur titubage, les trois frères arrivent à destination, jusqu'au marchand de poissons. Et là, de toutes leurs mains, ils discutent le prix. Philomène, la vieille nourrice, a trouvé une commère qui prête l'oreille à ses misères. Alors Donabella Rosa Fresca, un peu oubliée, a pu lever la tête pour regarder la ville où elle allait maintenant vivre.
C'est pas pour dire. Luigi Rignanese était au festival de conte itinérant de Libérou avec Conti Caprese ou Les contes de la chèvre. Un récit empreint d'amour, de courage et d'amitié. Luigi, conteur et musicien, s'accompagne tantôt à la guitare battante, tantôt au tambourin et parfois à l'accordéon diatonique. Des instruments qui le rattachent profondément à la tradition de ses origines et à son enfance dans la région des Pouilles.
D'après toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui sont les maîtres et maîtresses de la parole dans le conte et pourquoi est-ce que tu dis qu'aujourd'hui on n'en a plus?
Je suis resté un petit garçon malgré mon grand âge. En tous les cas, j'ai une bonne relation avec mon petit garçon intérieur. J'aime bien me raconter des histoires. Et dans les histoires que je me raconte, en tous les cas, non pas que je me raconte, qu'on m'a raconté à travers les livres ou à travers le témoignage de traditions orales vivantes, donc auprès d'amis qui viennent d'Afrique, de différentes régions d'Afrique, ou dans certains livres, des témoignages, on trouve souvent l'évocation d'un temps où il y avait des maîtres de parole en Afrique qui étaient capables d'arrêter le temps, de faire que la pluie devait tomber si on avait besoin ou qu'elle s'arrêtait, que les animaux, quand ils racontaient, venaient autour et ils écoutaient les histoires. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Et si on cherche dans la tradition celte des bardes ou des bardesses, parce qu'on ne parle pas des bardesses, mais sans doute elles existaient aussi, des maîtres et maîtresses de la parole, on voit qu'ils atteignaient un niveau d'oralité où il se passait des choses magiques. Je mets dans ce mot « magique » tout ce qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, mais qu'on peut ressentir. Donc aujourd'hui, il y a des très bons artistes de la parole, enfin du conte, parce que les arts de la parole, c'est plus vaste que le conte. C'est-à-dire, quand je parlais de récitation, un récitant, un acteur, mais dans la performance contée, comme moi je l'entends, qui est un art de l'improvisation, de l'instant présent, d'être capable de récupérer tout ce que l'univers nous offre, qu'on croit que ça va être mauvais et qu'on récupère et qu'on transforme en quelque chose de sublime et que du coup on vit un moment unique et irremplaçable ensemble. Et bien dans tout ce bazar-là, des gens qui arrêtent le temps et qui font que les animaux arrivent, je n'en ai pas encore rencontré, c'est tout. Peut-être parce qu'on raconte à l'intérieur. Les amis qui viennent d'Afrique, à qui j'en ai parlé, me disent ils existent encore, mais ils se tiennent cachés. Pour des tas de raisons qui sont liées à la culture du secret qui est dans la tradition orale. Et une petite chanson ? Voilà une chanson qui se rapproche beaucoup d'une histoire dans les Métamorphoses où un jeune homme chante pour sa belle en lui disant comment je vais faire pour séduire aimer cette femme ? Je vais construire un jardin merveilleux de roses avec des murs en or. Au milieu, il y aura une fontaine qui coulera fraîche pour elle. Et sur un arbre, il y aura un oiseau. Cet oiseau, c'est moi qui chante les beautés de cette femme.
Ero lì per intorni, la namorari di pre-depressione. preziosa rio, rifi, prede preziosa rio, rifi.
Ça dure des heures comme ça.
Chez toi, il y a un humour qui tient compte de tout ce qui se passe aussi au-dessous du cœur, pas que, mais voilà.
Voilà.
On n'est pas limité à notre cerveau et à notre cœur.
C'est ça. Et les entrailles, c'est important. Parce que voilà, quand tu parles d'artisanat, c'est que les entrailles, le corps, dans la tradition populaire, les gens sont denses. Parce qu'ils travaillent depuis qu'ils sont tout petits. Oui. Ils ne sont pas sportifs. Ça ne veut pas dire que c'est des athlètes. C'est des gros corps, des petits corps, des mecs, des tordus, des bossus, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une critère esthétique comme on l'entend aujourd'hui. Mais ils sont denses comme une clarinette en ébène sonne mieux qu'une clarinette en mousse. La densité corporelle est importante. Mmh. Et pour moi, mon chemin, c'est de raconter par corps et pas par cœur. Et quand je dis raconter, par corps, c'est avec tout mon corps, ça on peut le comprendre, parce qu'il n'y a pas que ma voix, il y a ma gestuelle, ma présence, ma densité, et avec l'expérience de mon corps. C'est pour ça que j'ai supprimé de mon répertoire, je raconte très rarement maintenant des contes qui sortent de ma culture, c'est-à-dire que raconter par corps, ça implique une expérience, et on peut vivre, on peut avoir vécu cette expérience, ou on peut se l'imaginer, ça marche, les deux marchent. Mais quand tu la vis, ça marche mieux. C'est-à-dire que... voilà, quand je racontais des contes sur l'Afrique, quand je dis le mot lion, lion, pour moi, c'est Daktari à la télévision, ok, ou c'est les zoos. L'expérience du lion en pleine savane qui hurle, qui grogne à 50 mètres de moi, je ne la connais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Donc, quand je dis le mot lion, il vibre à une certaine fréquence. Pour quelqu'un qui connaît le lion de manière intime et quotidienne, quand il va dire le mot lion va vibrer à une autre fréquence. Mmh. C'est le même lion, hein. Il n'y a pas de différence. Lui, il dit lion, moi, je dis lion. Mmh. On ne s'en rend pas compte. Mais dans un récit, c'est important. Et c'est ce que j'appelle, moi, les résonances harmoniques des mots. Dans les stages, j'en anime pas beaucoup parce que je n'aime pas trop ça, mais parfois, j'accepte. Dans les stages, je fais une expérience. Je parle de la résonance harmonique des mots. Les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Dans une note de musique, voilà, je vais vous faire un son, là. Vous entendez pas, vous entendez cette note. Si je change le formant de ma bouche, vous allez entendre les harmoniques, ça fait du chant diphonique, ça fait... La fondamentale, c'est toujours... Mais dans cette note-là, il y a toutes les harmoniques. Et il se trouve que Tomatis et d'autres chercheurs ont travaillé là-dessus. Et c'est les harmoniques qui nous font du bien. C'est pas la fondamentale. Et je pense que pour les mots, c'est la même chose. C'est ma théorie. C'est-à-dire que dans les stages, les gens ils me disent « Ouais, ça veut dire quoi ?» Je dis « Ben voilà, on est 12 personnes, 10. » Et au hasard, par feeling, je sens la bonne personne et je lui dis « S'il te plaît, Karine, tu peux me parler de ta maman ?» Généralement, les gens ils me font « De ma mère ?» Je dis « Non, non, de ta maman. » Et là, je l'ai constaté, dans le cercle, tout le monde bouge son corps comme ça, en disant « Ouf, c'est pas moi. » Et la personne que je mets sur le grill change corporellement. D'un seul coup, son corps parle pour lui. C'est-à-dire que soit il se recroqueville, soit il essaye de s'ouvrir comme il peut, il s'essuie les mains parce qu'il a les mains devient moites. Ils font tu veux que je parle de ma maman maintenant devant tout le monde ? Ben oui, ta maman, t'as bien de maman. Oui, oui, mais. Ben, ma maman, ça suffit. L'expérience est finie. Je l'arrête, ça ne m'intéresse pas de savoir. Mais je lui dis voyez, le mot maman, vous avez senti comme vous êtes tous bougés corporellement ? Et tout le monde fait tout le monde a changé de place. Et la personne qui témoigne de maman, dans son attitude, on voit que ça le met en mouvement. Je ne sais pas où, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste dans le mot maman, en le prononçant d'une manière neutre, il y a des harmoniques de sens qui nous échappent parce qu'on est tous sortis de ventre d'une maman qui nous a mis au monde. Qu'on la connaisse ou pas, c'est un mot qui est chargé d'harmonique. Que c'est ça mon travail, moi, d'artisanon, c'est de faire sonner le langage avec, surtout symbolique, avec un maximum de résonance de sens. De l'autre côté de la place. Agenouillé entre l'étal des cochons et l'étal des chèvres. Une gueule d'ange sur des épaules larges et puissantes. 20 ans. Il sourit. La tête baissée, il mendie tranquillement.
C'est lui, elle en est sûre. Angelo Bruno, l'ermite hérétique de l'île du Frioul. Celui qui passe dans les rues de Marseille en hurlant « Ouvrez vos fenêtres, laissez rentrer la lumière, l'amour est partout, même dans les cailloux !» Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme puisse dégager autant de doux. Ça lui a fait du mou dans les genoux. Un hibou coincé dans le cou. Un coup dans le joujou. Elle échappe à la surveillance familiale.
C'est pas pour dire avec Luigi Rignanese, en compagnie de la conteuse Karine Mazel.
Tu prenais l'exemple de ce conte inuit de la femme squelette, où tu estimes qu'un certain nombre de conteurs et conteuses commettent un impair culturel parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment. C'était probablement le cas des gens à l'époque dont tu parles, qui voyageaient, qui n'avaient pas forcément tous les éléments et qui, probablement, de notre point de vue, pourrait-on dire, commettaient des impairs.
On est d'accord, mais je vais mettre deux petits bémols à cette histoire-là. Quand ils reprenaient un conte qu'ils avaient entendu d'une autre tradition, ils l'adaptaient dans leur tradition. La différence avec nous, à notre époque contemporaine, c'est que nous sommes, pour la plupart, orphelins de tradition orale. Et donc, c'est difficile d'avoir des mythèmes et des, sur lesquels qu'on connaît par cœur ce qu'on nous raconte depuis tout petit. Ce qui fait que c'est plus compliqué. Ça demande un véritable travail pour la conteuse ou le conteur qui veut se réapproprier une histoire et la transplanter dans son jardin. Encore faut-il qu'il ait un jardin, parce que parfois on est déraciné, et c'est très bien aussi, mais il faut se poser toutes ces questions et trouver des solutions qui soient efficientes. De toute façon, on s'en rend bien compte. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est quand on fait une adaptation d'histoire, si le public ne vibre pas, parce que l'expérience du conte, ça ne passe pas par l'écrit, même si l'écrit est un support très intéressant, au même titre que pour un jazzman, il va écrire ses grilles d'accords pour improviser, et bien une fois qu'il maîtrise ça, il peut improviser, en faire une véritable version. Nous, la difficulté, c'est de retrouver une appropriation personnelle des mythèmes, de tous les symboles qu'on peut porter, en les laissant vibrer, et être à peu près cohérent avec la version originale. Parce que le but, quand même, de mon artisanat, c'est ça. Quand ça a commencé, j'étais très surpris, et depuis, je travaille très fort. C'est que, à la fin de mes performances de conte, les gens viennent me dire :« Il était bien ton film. » Quand j'ai ça comme retour, j'ai bien travaillé. C'est du conte. Et ça, c'est vraiment une spécificité qu'on met pas assez en avant dans les festivals de conte ou des gens qui s'occupent de cette histoire. C'est-à-dire que le conte, c'est le seul art de la parole où, comme dans d'autres arts de la parole, on va partager un temps présent, qui est le moment de la performance, et un temps commun, chose qui est rare parce que sinon, on a des temps intérieurs chaotiques, c'est-à-dire là, je ne sais pas quel est ton état intérieur, et ni le mien, on a tous des rythmes intérieurs différents. Quand il y a de la musique, on a un temps commun, précis, et la différence de l'art, du conte, je vais mettre merveilleux, parce que pour moi c'est l'acmé dans notre discipline, mais c'est mon point de vue, eh bien, on fait un rêve commun. Et ça, il n'y a aucun art qui propose ça. Voilà, merci beaucoup.
Ben, merci Luigi.
Karine, pour ce moment de partage, pour ton guidage dans le foisonnement de mes idées et de mes expériences artisanales autour de cette pratique du conte. Du conte merveilleux. Il faudrait qu'on trouve des mots, nous les conteuses et les conteurs, pour se séparer du mot conte, qui fait trop de confusion.
Ouais.
Se séparer du mot conteur et conteuse, qui est employé à toutes les sauces, sauf à la bonne, et essayer de s'approcher au plus près de la performance et de l'instantanéité de notre art, qui n'existe qu'avec la rencontre, avec un instant, un lieu, et en public.
Et une histoire.
Et une histoire, évidemment, celle qui fait tout.
Et merci, oui. Luigi.
Merci.
Il faut trouver des mots pour se séparer du mot conte, qui amène à trop de confusion. Et c'est sur cette parole, chers amis, que je vous propose de méditer. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a plu, cet échange à propos de l'art, l'artisanat et la manière dont les traditions se réinventent. Merci à Karine Mazel pour cette interview à la lumière du Sud et aux musiques des Pouilles. Quel bonheur que le rythme hypnotique de la tarentelle et de la pizzica. Pour en savoir plus sur Luigi Rignanese et ses spectacles en solo ou avec ses complices, musiciens, rendez-vous sur le site de la compagnie DA. Vous pouvez également réécouter cette émission et toutes les précédentes sur notre site c'estpaspourdire.fr ou bien nous écrire sur notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Ciao à tous. I still have a dream.